crois que toute l'assistance serait contente de savoir en fait pourquoi, tout simplement, Jean-Michel Fourneau et Antonin Lebrun travaillent ensemble. D'où c'est parti.
Donc, je suis donc Jean-Michel Fourneau, je suis comédien, chanteur et metteur en scène. Et avec Antonin Lebrun, on vient vous parler du projet de notre compagnie, le dernier projet, la dernière création, qui est un défi assez fou, la création d'un opéra de Puccini avec 11 chanteurs qui manipulent 15 marionnettes. Ce projet est né dans ma tête depuis plus de 6 ans et il a vu le jour l'été dernier. Et il est accueilli là, en ce moment, à l'Opéra Bastille, dans l'auditorium. La première est ce soir. Et c'est pour ça qu'on doit partir, parce qu'il y aura encore des répétitions et des raccords à faire cet après-midi. On est un petit peu sur des charbons ardents. Le rapport, donc, musique et marionnettes. Un tout petit mot sur l'opéra de Puccini. C'est un opéra atypique, c'est un opéra qui est très court, qui fait 50 minutes. C'est un opéra drôle, c'est sans doute le seul opéra drôle qui ait fait Puccini. Et sur l'histoire, rapidement, un vieil homme meurt, un vieux Florentin, un homme riche. Toute la famille arrive pour l'héritage. Ils apprennent que le vieux a tout légué au couvent. Du coup, toute la famille est désespérée, verse des vraies larmes, alors qu'avant c'était des larmes de crocodile. Réfléchissent comment on pourrait faire pour récupérer cet argent du vieux, décident de trafiquer le testament, font venir un personnage qui s'appelle Giannis Kiki, d'où le nom de l'opéra, et cet homme va trouver l'astuce toute bête de cacher le cadavre, de prendre sa place dans le lit et de dicter un nouveau testament au notaire pour normalement favoriser la famille, mais en fait, il va se favoriser surtout lui-même dans ce nouveau testament. Voilà, très brièvement l'histoire. Sur le choix chanteur et opéra, personnellement je ne suis pas marionnettiste, marionnette et opéra, je ne suis pas marionnettiste mais je suis un amoureux fou de la marionnette. Depuis ma prime enfance, j'avais la chance d'avoir une grand-mère qui était musicienne, pianiste, qui m'a initié à la musique et au chant et qui cachait dans son placard deux marionnettes traditionnelles lyonnaises, un guignol et un niafron. Dès que la leçon de piano était finie, pour me récompenser, elle allait ouvrir ce vieux placard qui sentait bon la cire et les draps propres qui sentaient la lavande. Et je voyais ces vieilles mains qui allaient sortir de derrière ces draps, donc ce guignol et ce niafron. Et pour moi, voilà, ce rapport de la marionnette et de la musique est associé à un souvenir d'enfance qui est très fort, qui est une sorte de petit paradis perdu, lointain, qui était caché là très profondément. Et dans tout mon parcours artistique après, du théâtre au chant lyrique, etc., il y a eu cette envie de rassembler, de retrouver cette espèce de paradis perdu. L'opéra de Puccini s'y prêtait beaucoup parce que tous les personnages de cet opéra sont doubles. Il y a ceux qui présentent aux autres, c'est-à-dire qu'on pleure le mort, alors à l'intérieur on ne pleure pas, on cache la vérité aux autres membres de la famille, donc tous les personnages sont doubles. Et tout est un jeu de manipulation, c'est-à-dire que le père manipule la fille manipule le père, le notaire manipule les témoins, Giannis Kiki manipule toute la famille. Donc on s'est dit, voilà un opéra qui est vraiment fait pour la marionnette et voilà pour jouer de tous ces doubles jeux ou triples jeux. Et en plus, comme c'est un opéra donc qui est drôle et qui a été très souvent mis en scène de façon brillante, c'était très difficile de proposer une nouvelle mise en scène de comédie drôle sans retomber dans tout ce qui a déjà été fait et très bien fait. Et donc la marionnette permettait d'amener une dimension complètement autre, beaucoup plus délirante, beaucoup plus surréaliste, parfois aussi je crois beaucoup plus poétique. Voilà. Et pour le grand défi qui a été pour nous, ça je crois que ça n'a pas été très souvent fait, c'était pour nous, il fallait vraiment que ce soit les chanteurs d'opéra qui manipulent eux-mêmes leurs marionnettes tout en chantant. Donc ça, c'était vraiment une chose très difficile. Je crois qu'Émilie Valentin l'a fait. Sans doute d'autres grands créateurs l'ont fait. Peut-être pas à ce point-là. Là, c'est vraiment, pendant une heure, les chanteurs sont en permanence sur scène, chantent en permanence ou presque, et donc manipulent ces marionnettes. et le décor, et donc des marionnettes qui vont de 70 cm à 2 mètres de haut. Et avant de passer la parole à Antonin, ce qui a été passionnant pour nous, ça a été de voir comment des chanteurs d'opéra absolument pas marionnettistes se sont investis dans ce projet avec passion, et comment ils ont nourri leur propre art en apprenant avec Antonin la manipulation. Les chanteurs d'opéra sont obligés d'avoir une posture, ils sont habitués pour leur technique vocale à favoriser une respiration très ample, à faire descendre leur diaphragme, à ouvrir leur coude flottante, à ouvrir le pharynx, etc. Ils sont habitués à une colonne d'air, à une façon de se tenir très particulière. Et la marionnette les a obligés à changer ses habitudes et à trouver toute une souplesse et une façon de bouger complètement différente. Les chanteurs d'opéra sont souvent un peu tournés à l'intérieur parce que justement ils sont obligés de contrôler énormément de choses physiques. La marionnette les a obligés à se détacher d'eux-mêmes, à aller mettre leur énergie dans un corps étranger à eux. Ça a été pour eux très perturbant au début, et petit à petit, ils m'ont tous dit, on a trouvé des choses qui nous ont aidés en fait à chanter, qui nous ont permis de nous détacher de nos corps et d'aller, d'aller dans le jeu, d'aller dans l'expressivité et d'arrêter de penser technique vocale et d'aller vraiment dans le sens de l'histoire, dans le sens de la manipulation, dans le sens de ce qu'ils interprétaient. Mais ça a été un parcours très long, sur 2 ans, difficile, avec des énormes fatigues de chacun. Mais tout le monde a joué le jeu et tout le monde s'est investi avec passion. Et voilà, ce qui nous permet d'être à Bastille aujourd'hui et ce qui nous fait très chaud au cœur. Voilà.
Bonjour. Antonin Lebrun. Alors, Janice Kiki, c'est le premier projet sur lequel j'ai travaillé à la sortie de l'école internationale de la marionnette à Charleville-Mézières. Donc voilà, c'était pour moi l'occasion de chercher ma façon de construire, et qui a donc été un mélange entre des techniques que j'ai apprises à la fois avec Émilie Valentin et d'autres, Franz Hölle ou d'autres, et de pouvoir les utiliser directement avec la contrainte des chanteurs. Et comme ça allait être une grosse contrainte, on a préféré avec Jean-Michel faire une première semaine de résidence pour chercher, pour voir qu'est-ce qui allait marcher ou pas. Donc pendant cette semaine de résidence, il y a des choses claires qui se sont décidées pour faciliter le travail des chanteurs quelque part. Donc j'ai bien vu très vite que des marionnettes avec des bras, ça allait être une catastrophe. On allait voir des bras qui se baladent dans tous les sens, et donc j'ai retiré les bras. Voilà, j'ai évité plein de contraintes et j'ai voulu mettre des contraintes physiques particulières à chaque personnage, comme si c'était une personnalité de chaque personnage. Donc j'ai choisi ces contraintes en fonction de ce dont le texte, l'œuvre m'a parlé. Quand Jean-Michel m'a proposé le projet, j'ai d'abord voulu écouter l'opéra, lu, et j'y ai vu comme une chorégraphie infernale. Et comme par hasard, ça partait, le texte, le livret part d'une phrase de l'Enfer de Dante, parce que Dante voit avec Virgile dans les Enfers un certain Janis Kiki, gambadant tel un porc dans les Enfers, parce qu'il aurait, il se serait travesti en Bosio Donati pour lui voler ses biens. Et du coup, à partir de cette phrase-là, le librettiste a fait tout le livret. Et moi, ça m'a fait créer une connexion, des connexions personnelles entre le côté infernal parce que c'est 45 minutes d'opéra sans arrêt, non-stop. Il y a vraiment, on passe d'une chose à l'autre, c'est action sur action. Il y a très peu de monologues, d'air Et du coup, je voyais vraiment un enfer tel un tableau de Jérôme Bosch. Et du coup, j'avais envie de vraiment de faire des marionnettes avec des contraintes physiques précises, suivant leur personnalité. Donc le gros Gherardo, par exemple, je voulais vraiment qu'il soit une contrainte physique à la fois pour le personnage, qu'il soit contraint, mais pour le manipulateur même. Donc je l'ai mis dans un chaudron. Donc il est énorme, il est comme ça, et le manipulateur est obligé de le porter par l'aisance pour l'envoyer d'un bout à l'autre de la salle. Donc c'est une contrainte physique, mais ça lui donne aussi une personnalité et un comique, une tragédie. Ils ont tous, chacun, une tragédie dans leur contrainte physique. Nella a une cruche en guise de corps, plus ou moins, une cruche cassée. Donc c'est faussement symbolique, c'est-à-dire que c'est des symboliques que j'ai à la fois pris à Jérôme Bosch et à la fois des symboliques que je me suis fait moi-même. La cruche, c'est la cruche, donc c'est la pauvre cruche. Le chaudron, c'est vraiment le personnage très gros. Il y a la vieille pie, donc qui est juste une femme avec la vieille femme, la vieille pie avec ses ailes noires. Voilà, donc suivant, ça leur donnait une personnalité. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire?
J'aimerais bien savoir dans quel matériau sont ces marionnettes.
Ah oui, voilà. Comme ça allait être manipulé par des chanteurs, j'ai voulu faire quelque chose d'assez léger. Et donc je les ai toutes construites en polystyrène extrudé. J'ai mis un temps au début de la construction à chercher. J'ai fait en bois. Ah non, c'est pas possible. Même moi, j'avais du mal à la porter. Donc non, c'est pas possible. Je les ai toutes faites en sculptées dans du polystyrène extrudé. Donc c'est pas expansé en petites bulles, c'est expansé en plein, c'est extrudé. Et voilà, et du coup ça a permis que par la suite, après, avec les costumes, ça restait assez léger pour que les chanteurs puissent porter les marionnettes en même temps que les manipuler.
Et donc on n'entend pas du tout de bruit de matière qui sera ajouté à la musique de l'opéra.
On l'entend, mais pas très peu. Très peu, très peu, parce qu'il y a tellement d'action déjà dans l'opéra que on n'a pas le temps de l'entendre. Si on l'entend, ça participe à une certaine. Ça participe à la cadence infernale de tout le spectacle. Si vous voulez, comme on avait très peu de temps et comme les chanteurs ne sont pas des manipulateurs à la base, j'ai préféré attaquer la manipulation avec eux par quelque chose de plutôt émotionnel, de sensitif avec eux, qu'ils puissent céder de tout ce dont ils n'ont pas droit habituellement en tant que chanteurs. C'est-à-dire les chanteurs ont tendance en cours de chant, on commence à effacer tous les gestes de trop. D'y mettre trop d'expressions par le geste. Là, je leur ai demandé toutes ces expressions qu'ils refusent, qu'ils gardent en eux, de toutes les mettre dans la manipulation. Et par là, ils ont trouvé chacun leur chemin ils ont trouvé leur chemin pour exprimer à travers le geste. Le mouvement du chant. Et donc voilà, c'est l'articulation, donc ce sont pas des marionnettes qui parlent physiquement, elles sont figées, et du coup l'articulation du chant se fait par des mouvements de tête et par des mouvements de mains. Donc oui, la solution pour les mains, c'était utiliser les mains des chanteurs de temps en temps comme des apparitions et disparitions de mains. Voilà,
Je fais très attention à l'heure pour vous, ouais. Donc j'aimerais bien peut-être que vous disiez jusqu'à quand ça se joue à l'Opéra Bastille.
Alors, en fait, il n'y a que 5 représentations qui sont malheureusement déjà toutes complètes. Donc ça joue ce soir, demain il y a 2 représentations, lundi après-midi et mardi après-midi. Ceci dit, on a gardé quelques places de sécurité. si quelques-uns parmi vous sont vraiment très intéressés, je peux laisser mes coordonnées et puis vous pouvez me dire, ben là, on veut vraiment venir et on veut voir ça. Donc voilà. Donc c'est 5 dates seulement. Et sinon, on reprend le 13 novembre au Théâtre de Maurepas pour une représentation. Voilà.
D'accord. Si vous avez des questions à poser, c'est forcément
oui,
tout de suite.
Oui, là, ce serait agréable de voir un échange, oui. Ouais.
Avec un micro qui va se promener parmi vous.
Spécialisée, c'est vraiment une vraie question. Donc je comprends bien l'alternance, enfin, le choix de la marionnette pour raconter une histoire, ça vous l'avez bien expliqué. Quel rôle joue la musique dans le choix de la marionnette? Quelle articulation spécifique se passe? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je la comprends dans la musique qui est mienne, par des expérimentations, mais je sais très bien que les gens qui font l'opéra ont encore une autre articulation, une autre manière d'incarner la musique et la marionnette via la musique. Mais chez vous, comment est-ce que ça se passe?
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, en fait. Pour nous, l'opéra de Puccini, c'est comme c'est une pièce de théâtre, en fait, qu'on va interpréter. Au lieu de l'interpréter juste en chantant, on fait jouer par les marionnettes et par les manipulateurs une histoire, une double histoire en fait. La vraie histoire de l'opéra, interprétée par les marionnettes, et qui est commentée à distance par les manipulateurs qui font soit la mimique de la marionnette, soit au contraire un commentaire, comme vous disiez avec la gestuelle, ce qu'elle est en train de dire là, c'est pas juste quoi, par exemple. Mais par rapport à la musique, je sais, j'ai pas compris la question.
Chanter, est-ce que ça aurait été le même spectacle? Donc qu'elle qu'apporte en plus la dimension musicale? Si on avait fait simplement le texte, et je comprends tout à fait le choix par rapport à l'histoire qui est racontée, mais imaginons qu'elle soit simplement parlée, est-ce que ça aurait été la même démarche? Ou la musique vous a introduit dans une autre type de
démarche? Et la musique et les voix lyriques amènent à nouveau une dimension encore différente. La musique amène des choses chorégraphiées, c'est-à-dire amène vraiment des, je ne sais pas, un petit peu comme dans le cinéma muet, où la musique vient commenter la gestuelle d'un Chaplin ou de quelqu'un, d'un comédien. Les voix, en fait, comment, c'est une question difficile, ça. C'est-à-dire qu'en fait, la musique nous a guidés pour la gestuelle et la manipulation, je dirais. C'est-à-dire que la musique induit un commentaire du texte, la musique dit quelque chose sur le texte, elle implique un rythme, voilà, il faut dire cette phrase-là à ce rythme-là, elle implique des hauteurs de phrasé, d'intonation et de place du mot dans la phrase. C'est-à-dire que le compositeur impose une première mise en scène du texte. Il dit, moi je veux que cette phrase-là soit dite comme ça, à cette vitesse-là, avec ce phrasé-là. Et du coup, ça impose une gestuelle et une interprétation du marionnettiste et de la marionnette. Ça a quelque chose?
Ce qui me fait rire, c'est que c'est souvent la question opposée qu'on m'a souvent posée. Mais du coup, oui, la musique, ce qu'apporte la musique à la marionnette dans la manipulation, du moins, c'est quelque chose, justement, voilà, de très naturel chez les chanteurs. Du moins, chez certains, c'est très différent suivant les chanteurs. Mais il y a certains qui ont direct compris leur chant avec la marionnette permettait de pouvoir raconter vraiment les personnages, les drames de chaque personnage, plus précisément que si eux jouaient les personnages. Si eux jouaient chantaient le rôle, ça aurait été comme faux quelque part. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus vrai qui se passe c'est comme si les chanteurs étaient complices avec le public du ridicule de cette famille qui cherche argent à tout prix et voilà, la chorégraphie, la musique apporte l'énergie,
ça
fonctionne.
Est-ce que la manipulation n'impose pas, ne joue pas sur le rythme de la musique et la musique réciproquement? Parce qu'en fait, quand vous montez le spectacle, vous le montez, vous lui donnez le rythme, un rythme qui va avec la musique. Et on ne peut pas faire n'importe quel geste avec une certaine musique. Et la musique impose son rythme à la manipulation d'une certaine manière.
Complètement, oui. C'est tout à fait juste. C'est qu'on a la même problématique qu'entre le texte parlé et le texte chanté de l'opéra.
Et inversement, la technique de la marionnette va imposer au chanteur qui manipule de chanter dans un certain rythme. Il y a une symbiose entre la technique elle-même et la technique musicale et la technique marionnette.
Oui, c'est tout à fait juste ce que vous dites, mais sachant que c'est quand même la musique qui décide. C'est-à-dire que nous avons été très 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 respectueux de la partition de Puccini, et donc on a vraiment respecté les tempi, les phrasés, etc. Donc c'était vraiment une contrainte en plus pour les manipulateurs de, comme vous dites, de trouver comment respecter ce phrasé, cette cadence de chant, et comment trouver la manipulation juste pour ne pas dénaturer la musique, pour ne pas tout d'un coup ralentir une phrase qui n'a pas à être ralentie, ou au contraire l'accélérer. Et ça a été un travail difficile, et avec la directrice musicale qui s'appelle Caroline Mang, c'était vraiment toujours un travail à trois en fait. On était vraiment, voilà, le responsable marionnette, le responsable mise en scène, la responsable musicale, et il fallait toujours revenir à la partition, respecter la partition, et trouver la solution idéale pour que Puccini se retourne pas dans sa tombe, quoi. Mais ça donne aussi beaucoup d'inspiration, comme vous le savez, quoi, les contraintes amènent des idées et des images qui, j'espère, sont soit du coup très surprenantes et drôles, ou au contraire presque plus poétiques encore que qu'on aurait pu l'imaginer Puccini lui-même, on l'espère.
Merci Marion Chenet.
Alors nous travaillons sans chef d'orchestre parce que c'est une version réduite pour piano, pour l'instant, pour pouvoir tourner un peu partout. Donc là aussi, c'est une contrainte qui est très difficile pour les chanteurs, parce que pour ceux qui connaissent cet opéra, c'est beaucoup d'ensemble. C'est-à-dire souvent, c'est les 11 chanteurs qui chantent en même temps plein de petits bouts de phrases dans des tempi très compliqués. Donc la mise en place musicale a été très laborieuse, longue, et maintenant les chanteurs sont complètement indépendants. Donc ils jouent toute la pièce absolument sans référent de chef. Ils ont une oreille énorme sur le piano. Et puis après, il y a des petites astuces de départ. C'est un chanteur qui va inspirer pour entraîner tous les autres. Après, il y a plein de petites astuces selon les scènes pour trouver la bonne entente du groupe. Mais pas simple. Surtout un opéra comme ça, pas simple sans chef.
Bonjour, je suis David Cana, j'essaye d'être producteur de spectacle. Ma question était, j'aurais pas le plaisir de voir le spectacle, je pense. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du dispositif scénique, justement? Donc le piano, je suppose, est sur scène.
Comment
sur
scène.
Voilà, merci.
Alors on a juste créé, je vais donner la parole à Antonin, on a créé donc un espace presque vide, c'est-à-dire que ça représente, c'est simplement le plancher de la maison de Buoso Donati. Et dessus, il y a un lit à baldaquin. Voilà, c'est le lit du mort. Et j'ai demandé à mon décorateur de faire en sorte que ce lit soit très mobile, puisse donc nous permettre de changer l'optique, comme si on déplaçait une caméra en fait sur scène pour avoir plein d'angles différents. Que ce lit soit très stable pour faire monter les chanteurs dessus, et que ce lit soit truffé de trappes et d'astuces pour permettre de créer un nouveau décor, de faire sortir un escalier, d'ouvrir une trappe pour cacher le testament, de se servir des rideaux pour cacher les manipulateurs à certains moments. et tout ça donc a développé Antonin après.
En fait, dans le livret original, il y a beaucoup. Voilà, si on avait voulu respecter tout le livret, il y aurait eu des armoires, des escaliers partout, plein de détails, des chandeliers avec des bougies allumées. Vous imaginez ça maintenant, des bougies allumées dans un théâtre. Avec Jean-Michel, on a réfléchi, mais qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est indispensable dans cette histoire, ce n'est que le lit de mort. Et du coup, on a gardé le lit de mort, le plancher. Il y a comme des couloirs d'espace pour les chanteurs sur les côtés de la scène, des boîtes dans lesquelles les marionnettes sont rangées avant le spectacle et qu'ils peuvent utiliser pendant le spectacle comme décor. Et le piano qui est derrière ces boîtes-là. Donc il est assez loin quand les chanteurs sont à court. Le piano là, ils sont obligés d'avoir un repère avec d'autres chanteurs, comme s'il se passait le repère jusqu'au piano, du piano jusqu'au chanteur. Donc c'est assez contraire.
La démarche de la compagnie, c'est aussi bien sûr d'essayer d'aller jouer le plus possible un petit peu partout. Et donc on ne pouvait pas se permettre un vrai décor d'opéra qui est très lourd et qui demande des énormes camions. Donc il fallait quelque chose de relativement léger. Ce qui a rajouté plein de contraintes, parce que ça veut dire un espace de jeu assez réduit, parce que le plancher doit faire 7 mètres d'ouverture au maximum. Et que donc sur cette surface, sur cette aire de jeu de 7 mètres sur 6, il fallait non seulement caser les 11 chanteurs en permanence, mais les 11 marionnettes, donc en fait 22 personnes en permanence avec ce grand lit à baldaquin sur scène. Mais pour nous, ça a été passionnant de chercher comment créer un livre d'images très vivant et très changeant comme la musique, et de proposer au public comme un film, comme un clip, avec plein d'univers, plein d'images très différentes, mais avec cette contrainte-là. Très peu de choses au point de vue décor, mais par contre très mobile. Le plancher aussi à un moment se fissure et s'écartèle quand les enfers approchent, etc. Et puis on a sur les côtés des servantes avec des petites lumières qui amènent aussi un petit peu de relief et de voilà, ou pas, qui rajoutent à toutes ces images. Mais c'est oui, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, mais maintenant tout rentre dans deux petits camions. Ce qui nous permet donc d'aller dans des lieux vraiment pas habitués à l'opéra et qui sont très très heureux d'accueillir ce type de spectacle.
Et je crois que c'est un spectacle, un opéra visible même par le jeune public.
C'était même volontairement destiné au jeune public, pareil, pour essayer d'enlever ces peurs que peuvent avoir les enfants ou les jeunes vis-à-vis de l'opéra. Quoi. Et du coup, le fait que c'est des marionnettes, que c'est très visuel, il y a une petite crainte ou un petit a priori qui fait qu'on entre plus volontiers dans ce type de spectacle. Et puis comme c'est un spectacle court, comme c'est un spectacle drôle, voilà, pour ceux qui a priori pensaient ne pas forcément aimer l'opéra, du coup ils y entrent et on a eu vraiment d'excellents retours, et des lycéens, et des collégiens, et ouais, ça se passe bien.
Merci beaucoup. Après nous avoir fait partager vos étapes de travail, il est peut-être bon qu'on vous laisse aller le faire.
On va y aller.
Donc, merci à vous.
Je voulais simplement ajouter que si vous voulez en savoir plus sur l'opéra et la compagnie, il s'agit ici de l'Orphée Théâtre.